franceinter.fr.
Et la danse endiablée des récepteurs à la surface de nos neurones, c'est une découverte importante sur la plasticité cérébrale et la mémoire qui est aujourd'hui à la une de la science.
Mesdames, messieurs, veuillez prêter attention à mon collègue, l'agent J. Il va vous présenter un dispositif électro-biomécanique de repositionnement à neurotransmission asynaptique baptisé neurolaser.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Excellente question. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici.
Et qui êtes-vous ?
Un extrait de Men in Black pour parler de cette publication importante donc sur les mécanismes de mémorisation avec ces chercheurs bordelais qui montrent que la membrane de nos neurones se modifie en permanence et que cette forme de danse des récepteurs est indispensable pour bien mémoriser. Axel, vous nous présentez notre invité, Daniel Choquet.
Bonjour Daniel Choquet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS à la plateforme d'imagerie de Bordeaux. L'étude que vous publiez aujourd'hui dans la revue Nature, c'est la suite d'une découverte que vous avez faite il y a quelques années, cette fameuse danse des récepteurs. Expliquez-nous un peu ce qui se passe à la surface de nos neurones en permanence.
Eh bien, comme vous le savez, le fonctionnement du cerveau est dû à l'activité des neurones qui communiquent entre eux par l'intermédiaire de synapses, ces zones de connexion entre neurones. Et au niveau de ces synapses, on a des récepteurs qui sont responsables de la transmission de l'information entre cellules. Et on pensait autrefois que ces récepteurs étaient immobiles, que la transmission était d'une certaine manière très stable. Mmh. Et ce qu'on a découvert il y a quelques années, c'est qu'en fait, ces récepteurs sont en agitation permanente, se déplacent tout le temps à la surface des neurones. Et ces déplacements sont en fait extrêmement importants pour le fonctionnement du cerveau.
Mais alors, qu'est-ce qui leur donne ce mouvement ? Pourquoi est-ce qu'ils bougent ?
Alors en fait, c'est simplement la température, l'agitation moléculaire. C'est un mouvement qu'on appelle, c'est le mot savant, l'agitation brownienne, qui est l'agitation de toutes les molécules qui bougent partout. Et en particulier, les récepteurs de neurotransmetteurs bougent aussi, dû à l'agitation moléculaire.
Alors aujourd'hui, oui, dans une nouvelle publication, vous montrez que ce mouvement est utile, il est même indispensable. Comment est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez découvert à propos de ce mouvement ?
Après avoir découvert que ces récepteurs bougeaient, on s'est bien entendu posé la question de savoir à quoi ça sert. Est-ce que c'est par hasard que les récepteurs bougent à la surface des neurones ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Et donc on a développé tout un ensemble de technologies qui permettent d'arrêter les récepteurs, de les immobiliser à la demande pour voir quel était le rôle de ce mouvement. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on arrête le mouvement des récepteurs, le cerveau continue à fonctionner normalement, mais il devient incapable d'apprendre. On a perdu la plasticité.
Alors, on parle de cerveau qui est incapable d'apprendre, on parle de cerveau de souris, bien sûr.
Bien sûr, on en est au stade des expérimentations chez l'animal et donc chez la souris. Et donc chez la souris, on est capable d'arrêter le mouvement de ses récepteurs et de tester les possibilités d'apprentissage de la souris, en particulier l'apprentissage spatial, la navigation dans l'environnement. Et la souris, dont les récepteurs sont immobilisés, n'apprend plus. Elle ne sait plus reconnaître tel endroit ou tel endroit. Elle ne sait plus se rappeler qu'elle a été se promener dans tel endroit ou dans tel endroit.
Et alors, qu'est-ce qui fait ce phénomène, justement, Daniel Choquet ? Puisque vous parlez d'agitation, puis ensuite de phénomènes qui s'arrêtent dans le cadre de la mémorisation. Comment ça fonctionne ? Comment sont réparties, justement, les choses ?
Eh bien, c'est là que c'est tout à fait intéressant. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le phénomène de mémorisation est dû en grande partie à une augmentation du nombre de récepteurs dans les synapses. Quand on se rappelle d'un endroit en particulier, eh ben, certaines synapses de certaines régions du cerveau sont renforcées et il y a plus de récepteurs qui arrivent. Et en fait, en arrêtant la mobilité des récepteurs, ben, on empêche ces nouveaux récepteurs d'arriver et donc les synapses ne peuvent plus augmenter leur force de transmission. On a d'une certaine manière gelé leur fonctionnement.
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait voir la mémoire comme une forme de cartographie où la position du récepteur et l'information mémorisée ?
Absolument. C'est au niveau des synapses. La mémoire, c'est certaines synapses qui vont être potentiées, certaines synapses qui, au contraire, vont perdre de la potentiation. Et ça va permettre ça de changer l'activité du réseau neuronal. Et effectivement, la position des récepteurs, qu'ils soient dans la synapse ou en dehors de la synapse, va totalement déterminer si une synapse est forte ou moins forte.
Mais la mémoire, alors expliquez-moi bien, ça fonctionne quand ça s'agite ou quand ça s'arrête, Daniel Choquet ?
Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que pour stocker de l'information, il faut rajouter des récepteurs, il faut immobiliser des récepteurs dans une synapse, mais pour qu'ils y arrivent dans cette synapse, il faut qu'ils se soient déplacés. Mmh. Et donc, si on empêche ce déplacement, on empêche le recrutement, et du coup, on empêche la mémorisation.
Alors, quand vous dites que les récepteurs se déplacent en permanence, est-ce qu'on peut parler d'une vitesse? Quelle distance ils parcourent par rapport à leur taille?
Donc, les récepteurs se déplacent, comme je l'ai dit, par cette agitation moléculaire. Une synapse, c'est à peu près un micron, donc c'est à peu près un vingtième de cheveux en taille. Et un récepteur, c'est à peu près 50 fois plus petit. Ça se mesure en milliardième de mètre, c'est une vingtaine de nanomètres. Donc un récepteur se déplace à peu près d'un micron en une seconde. Donc un récepteur peut traverser toute une synapse à peu près en une seconde.
Est-ce que le fait de pouvoir bloquer ou même stimuler ce mouvement peut avoir un intérêt médical particulier ?
Donc on le pense, donc ça c'est les recherches qu'on est en train de faire maintenant, puisqu'il y a quelque chose qui est très important, en particulier dans le cadre de certaines maladies neurodégénératives, comme maladie d'Alzheimer par exemple, ou maladie de Huntington, on a une perte de l'activité des synapses, dont on pense qu'elle est due en grande partie à une perte des récepteurs. Donc on pourrait imaginer qu'en développant des méthodes qui permettent de stabiliser des récepteurs ou de les déstabiliser, on puisse empêcher d'une certaine manière cette perte de synapse.
Est-ce que ce phénomène-là que vous décrivez et ces découvertes que vous avez réalisées, c'est ce qui décrit aussi un peu mieux la plasticité cérébrale ?
On le pense, absolument. Puisque en pouvant comme ça contrôler ce mouvement des récepteurs, on pense qu'on va pouvoir contrôler la mémorisation dans différentes zones cérébrales. Donc on a commencé par travailler dans une zone spécifique qui s'appelle l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire spatiale. Mmh. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'aller regarder dans d'autres zones du cerveau, le cervelet, le cortex, qui sont responsables d'autres formes d'apprentissage, pour voir si effectivement cette mobilité des récepteurs, là aussi, est nécessaire pour ces autres formes d'apprentissage.
Merci beaucoup Daniel Choquet, bravo à votre équipe de Bordeaux qui vous vaut donc une publication dans la revue Nature donc autour de ce mécanisme. Merci beaucoup à vous et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle piste très prometteuse pour traiter l'asthme allergique. Une nouvelle substance extraite de la baie de corail, plante de la famille des broméliacées, vient d'être testée en inhalation sur des modèles animaux d'asthme allergique et s'avère bien plus efficace que le salbutamol, seule molécule disponible pour l'instant, utilisée dans tous les inhalateurs d'urgence comme la ventoline. L'efficacité est immédiate, comme pour le salbutamol, mais par contre, elle dure bien plus longtemps et inhibe la contraction réflexe des bronches en cas de contact avec un allergène. Cette molécule ne sera pas testée sur l'homme avant plusieurs années, compte tenu de sa parfaite nouveauté, c'est ce que précisent en tout cas les chercheurs. Les plaques tectoniques seraient moins solides qu'on ne le pensait, selon une étude publiée dans Nature. C'est la technique de nano-indentation qui permet aujourd'hui d'expliquer cette différence. Elle consiste à compresser un diamant contre une roche pour déterminer la force de cette dernière. Or, cette étude montre que le résultat varie en fonction de la taille du diamant utilisé. Plus il est petit, plus la roche sera forte. Et jusque-là, on se servait de diamants plus petits que ceux que l'on trouve dans la nature. C'est pour cette raison qu'on aurait surestimé la force des plaques tectoniques. Dorénavant, on devrait mieux comprendre et prévoir la dynamique de ces plaques. Et puis enfin, Octopolis et Octatlantis, ce sont les noms des deux premières villes de pieuvres observées en pleine mer, des cités faites de vieux coquillages et de roches accueillantes. Jusque-là, on pensait que ces animaux étaient des solitaires. Mais en 2012, des chercheurs australiens observent 16 pieuvres qui se partageaient un même espace sur de longues durées. Ensemble, elles se battaient, s'accouplaient, bref, elles socialisaient. Un autre rassemblement a été étudié plus récemment, 23 individus observés pendant 28 jours, qui présentaient le même type de comportement. Les auteurs de l'étude avancent l'idée selon laquelle la réduction des espaces pouvant accueillir ces créatures aurait pu les conduire à adopter ces comportements sociaux inédits.